Avant de vous dire comment ça va, oui. Bonjour quand même à nos auditrices et à nos auditeurs.
Exactement, on va parler avec vous. Vous étiez venu il y a quelques semaines, même pas, hein, pour parler de plusieurs conférences qui avaient lieu à la FNAC sur le thème de la déportation. Une très belle série de conférences et d'événements que la FNAC avait organisés. Et aujourd'hui, on va parler de votre livre. Vous voulez dire un mot sur la FNAC, sur ces conférences ?
Ah, ça s'est très très bien passé. Ouais. Je crois que c'était d'ailleurs avec le concours du CDJC.
Tout à fait. Hein ? Vous avez raison de le
signaler.
Oui,
il faut quand même le signaler. C'est quand même important. Oui, oui, bah, j'en ai fait deux. J'en ai fait une à Paris et puis une vendredi dans l'après-midi à Bordeaux avant Shabbat.
Hein, ouais. Avant Shabbat. Hein, à Bordeaux, puisque vous vivez dans la région.
Voilà.
Alors, ce livre, 16 juillet 1942, qui vient de paraître aux éditions Berg, c'est votre histoire. C'est l'histoire de votre famille. Vous avez été témoin à charge au procès de Maurice Papon et on en parlera tout à l'heure puisque vous le racontez dans le livre. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire aujourd'hui, de raconter votre histoire ?
Ah, eh bien écoutez, c'est extrêmement simple. Quand je suis revenu du procès de Papon, j'étais complètement détruit. J'ai fait trois allées aux urgences de l'hôpital Mignot à côté de Versailles. Et j'étais vraiment dans un état terrible. Et c'est une de mes amies qui est professeure agrégée d'histoire et pour qui j'ai fait la dédicace au début du livre, qui m'a dit « Écoutez, il faudrait que vous racontiez cette histoire-là ». Alors bon, je ne voyais pas très très bien comment. On a commencé, elle m'a aidé d'ailleurs, hein, elle m'a largement aidé à dégrossir le travail. Et à partir de là, ça a été une longue recherche. Vous savez, c'est comme une pelote de ficelle. Hein, vous tirez le premier fil, après vous tirez. Et puis pendant 7 ans, qui est un chiffre tout à fait kabbalistique, j'étais d'archives en archives et de bibliothèques. Et j'ai retrouvé tout un tas de documents que je ne connaissais absolument pas sur ma propre vie.
Alors votre propre vie, on va la raconter. Vos parents sont d'origine hongroise, enfin en tout cas votre maman.
Ma maman, oui. Mon père était d'origine roumaine.
Roumaine. Votre maman est née dans la banlieue de Budapest, une famille nombreuse, hein, qui est venue à Paris suite à, un drame. Le frère aîné de votre maman décède. C'est l'autre frère donc, qui doit suivre la boutique de votre grand-père. Et puis, il ne lui veut pas. Il dit « Je veux aller à Paris », puisqu'il avait été à Paris, que ça lui avait beaucoup plu. Donc, ils arrivent en France. Toute la famille arrive en France. Et votre maman a une vie, on peut dire, normale. Elle rencontre votre père, qui lui était donc d'origine roumaine, qui est arrivé aussi à Paris.
Oui, c'est ça. Il était d'origine de Bolgrad, vous savez, cette région près d'Osaka, ça va me revenir tout à l'heure, bien sûr, où ont débuté les pogroms. C'est la région où l'histoire du violon sur le toit se passe.
Oui, hein, d'accord. Alors vous, en 1942, vous avez 10 ans.
10 ans, oui.
10 ans. Quels sont les souvenirs avant ce 16 juillet 42, le début de la guerre en 39-40?
Avant, oui. Oh là là, ça c'est très très, c'est très difficile justement. J'ai eu beaucoup de mal à reconstituer tout ça. Je me rappelle avoir, dans les 3 ans, été inscrit, tenez-vous bien, dans un collège féminin à Bouffémont. Oui. À Bouffémont. Voilà, je me rappelle de ça. Et puis c'est à peu près tout. Ce dont je me souviens. Et c'est justement comme ça qu'aux archives, aux archives départementales des Landes, j'ai pu retrouver un parcours qui était assez intéressant, c'est-à-dire que ma mère, en 1939, début 39, avait dû se douter qu'il allait
votre
se passer.
Votre mère avait senti qu'être juif, c'était pas.
Elle était extrêmement intuitive. Alors elle voulait
faire passer
en Suisse chez une grand-tante qui habitait à Saint-Gall. Et pour ça, nous sommes allés à Heggenheim, près de Colmar. Et j'ai retrouvé donc tous ces documents. Nous avons été refoulés par les Suisses. Et à ce moment-là, il y a eu la déclaration de guerre et le gouvernement français avait décidé d'évacuer l'Alsace et a fait des convois de trains entiers de l'Alsace vers le sud-ouest de la France. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Dax.
et que vous êtes resté à Dax, où votre maman va faire la connaissance d'un monsieur extraordinaire, un vieux monsieur qui s'appelle
Paul Cougouille. Mon papa Cougouille, oui. Ouais.
Alors, qu'on cite, parce qu'on va raconter après ce qu'il a fait pour vous, qui est extraordinaire. À Dax, votre maman a une boutique, et puis, eh bien, comme sur toutes les autres boutiques qui sont tenues par des juifs, on met un jour l'inscription.
À l'inscription, oui, un magasin tenu par un juif, absolument, voilà, donc interdit, enfin au moins on prévient tout le monde que c'est un magasin de pestiférés.
Oui. Alors le 16 juillet 1942, vous racontez ce qui se passe, vous étiez dehors, vous vous baladiez.
Ah bah écoutez, c'était un jeudi, ça aussi je l'ai retrouvé parce que je ne me rappelais absolument pas. Je ne savais pas si je revenais de l'école ou si je me promenais, je ne me rappelais plus. Mais en voyant qu'il s'agissait d'un jeudi, donc j'ai reconstitué ça. Et je rentre à bicyclette chez moi pour goûter tout simplement, comme tous les enfants de cet âge-là. Et c'est à ce moment-là que je trouve un mot de ma mère qui était posée sur la table de la cuisine, dans lequel il y en avait deux parties. Il y a une partie, d'ailleurs toutes les deux sont dans le livre reproduites. Il y a de très très beaux documents. Bien. Et alors, viens me rejoindre chez le père Cougouille. Voilà. Et ce document est rayé, mais de deux traits très nerveux. Okay. On le sent, ils sont nerveux. Et à mon avis, quand elle a écrit ça, les gendarmes ont dû lui dire non, vous ne ressortez pas, vous êtes arrêté. Oui. Et elle a donc réécrit un mot de l'autre côté de ce papier, dans lequel elle disait, viens me rejoindre au commissariat.
Mon chéri, je suis au commissariat, viens me rejoindre vite.
Oui, et ce vite, avec un point d'exclamation et un trait pour terminer, qui également sent son pesant de nervosité et d'angoisse.
Oui, alors vous rentrez, vous trouvez donc ce mot de votre maman, vous reprenez votre vélo et vous allez au commissariat.
Absolument, oui. Oui.
Et là, vous êtes arrêté.
Alors là, oui, nous sommes arrêtés.
Vous avez 10 ans et vous êtes arrêté.
Oui, avec une dizaine de personnes. Et puis alors de là, on nous amène au commissariat on nous amène à la prison de Dax, qui n'existe plus d'ailleurs, elle a été démolie. Je le précise parce que si un jour des Dacois me disent « Mais où y a-t-il une prison ?»
Non,
il
n'y
en a plus, il n'y en a plus. Et donc là, avec ma mère et puis ces autres dames, on a passé la nuit. Et moi, le matin, on m'a chassé. Oui. Alors ça a été quelque chose d'absolument terrible. Alors ça, je peux vous assurer que toute ma vie durant, l'image ne me quittera pas quand j'ai vu ma mère partir encadrée par quatre gendarmes français, deux Feldwebel et deux gardes de la SD, c'est-à-dire huit hommes.
Oui, pour une femme, oui, bien sûr.
Elles étaient huit femmes, mais quand même, de tous âges, armés jusqu'aux dents, ça fait quand même... c'est un peu démesuré, quoi.
Vous étiez deux enfants dans la cellule, avoir passé cette nuit dans la cellule, vous-même et une autre petite fille, et donc au matin, les policiers vous renvoient, et personne ne se préoccupe de savoir où vous allez aller et qui
absolument
va s'occuper
pas. De vous. Non, absolument pas. C'était d'ailleurs une des questions qui m'a été posée au procès par le président Castagnède. Non, absolument pas. Je suis parti tout seul. J'ai rôdé dans les rues de Dax jusqu'au moment où je me suis retrouvé chez mon papa Cougouille.
Ouais.
Alors, quant à la petite fille dont vous me parler. Pendant 60 ans, je lui ai donné un nom, parce que moi, je me rappelais d'elle, mais je n'en étais pas certain. Je lui ai donné un nom, et ce nom, c'était la petite fille qui a passé une nuit en prison avec moi. Elle s'appelait comme ça. Et puis, dans mes recherches, dans ces 7 années de recherche, alors ça a été vraiment, c'est rocambolesque. Je suis passé sur la deuxième chaîne israélienne, j'ai envoyé des messages un peu dans le monde entier sur Internet. Je pensais vraiment qu'elle n'était plus de ce monde. Quand un jour j'ai reçu un email qui me disait « Écoutez, cette dame, c'est ma cousine. » Et cet email venait de Belgique. Cette dame est ma cousine, elle habite actuellement en Israël. Il me donne les coordonnées. Voilà,
c'est comme ça que
je... Oui, absolument. Et je suis allé en Israël au mois de novembre dernier. Et nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Voilà, c'est une petite jeune fille de 74 ans.
Qui était avec vous cette terrible nuit. Alors, vous repartez, donc on l'a dit, tout seul, et vous allez immédiatement, enfin, après avoir essayé de trouver votre chemin, chez ce monsieur qui... Monsieur Cougouille.
Absolument, oui.
Qui vous héberge.
Qui m'héberge. Et puis, j'étais tellement choqué que le soir, je me suis pris une crise d'angoisse. Il y avait un mélange de tout, eczéma, crise de foie, enfin, tout ce qui est possible d'imaginer. Et donc, on m'a amené à l'hôpital de Dax. Et puis, alors là, j'y suis resté. Il faut vous dire que le lendemain, le surlendemain, c'était fini. J'étais guéri. Mmh. Alors, moi, j'y suis resté, pour moi, dans ma tête, j'y suis resté 3 semaines, 1 mois. En fait, j'y suis resté 10 jours.
Oui. Hein.
Voilà. Et puis, de là, mon papa Cougouille est venu. Il m'a pris. Il m'avait organisé pendant ce temps-là le passage dans la zone non encore occupée, que les gens appellent à tort zone libre, mais qui n'était libre que de nom. Hein, et voilà, c'est comme ça que j'ai passé la ligne de démarcation.
Alors, ce qui est incroyable aussi, c'est que les nazis vous avaient relâché parce qu'à ce moment-là, ils avaient ordre de ne prendre les adolescents qu'à partir, les enfants qu'à partir de 16 ans. Vous aviez 10 ans à l'époque, mais finalement, ils vous ont recherché quand même après.
Tout à fait, oui, parce qu'il y avait une note du SS Sturmbannführer Dan Hecker, hein, je dis bien les choses, hein.
Ouais.
Je suis entraîné. Et qui disait qu'il voulait quand même prendre les enfants de moins de 16 ans.
Hein,
et cette note est arrivée.
Ils sont revenus vous chercher.
Ils sont venus me chercher, oui. Et j'étais à l'hôpital. C'est pour ça que le père Cougouille m'y a laissé un certain temps. Hein. Donc j'étais à l'hôpital et très vraisemblablement, moi je pense sincèrement que même si j'étais. Je ne disais pas que j'étais juif, je pense que les infirmières le savaient, le sentaient. Elles sentaient bien que ce n'était pas normal qu'un enfant guéri
restât
dans l'hôpital aussi longtemps.
Hein. Alors, votre parcours va être marqué comme ça, et c'est important de le signaler de beaucoup de Français, de beaucoup de Justes qui vont vous sauver. C'est un peu une chaîne comme ça,
tout à fait.
Le père Cougouille, ses infirmières, et puis ensuite, eh bien, vous passez en zone dite libre.
Oui.
Et comment ça se passe là-bas?
Alors là, il se passe encore plein d'aventures parce que je rentre au collège Cabanis à Brive, et ce collège, bien entendu, à partir du 11 novembre 1942, est investi par les Allemands. Mmh. À partir de là, eh bien, on commence la fuite.
Ouais.
La fuite chez les uns, chez les autres, cachée à droite, cachée à gauche, notamment dans un orphelinat catholique, un orphelinat agricole, ensuite de quoi chez des paysans corréziens, dont la fille est actuellement une amie, bien sûr, elle a mon âge. Et là, ça a été comme tout enfant, la vie amener des messages au FTP,
comme tout enfant, faire de la résistance, bien sûr, comme tout enfant. Georges Gelman, vous avez commencé à me raconter, mais je voulais que vous développiez quand même un petit peu quand vous avez été caché après un petit peu partout, même enfant, là vous avez quoi? Vous avez 12 ans, 12 ans, et vous avez travaillé un petit peu pour la résistance.
Oui, bien sûr, mais...
Bien sûr.
oui. C'est-à-dire que j'étais chez les paysans, et ces paysans, tout naturellement, étaient liés au FTP, francs-tireurs et partisans. Hein, il y avait un camp à 2 km de chez nous. Hein, donc on était avec eux, tout le monde se connaissait. Hein, donc c'était pas un problème. On me disait, tiens, Georges, voilà un message, tu vas l'amener de tel camp à tel autre. Bon,
il le faisait.
Hop, on passait à travers champs.
Et vous vous rendez compte de ce que c'était?
Non, pas du tout.
Non.
Absolument pas. Non, non. Jamais. Pour moi, c'était complètement ludique. Je m'amusais. Non, non, absolument. Aucune notion du danger. Non, non, absolument pas.
Comment est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre maman juste avant? Parce qu'elle a quand même réussi à écrire deux courriers.
Oui, oui, mais c'est pas à moi qu'elle a écrit. Elle a écrit à sa sœur.
À sa sœur, oui,
elle
votre
a écrit
tante.
À sa sœur, sa jeune sœur. Avec qui elle avait de grandes affinités. Et en plus de ça, la fille de sa sœur, ma cousine, est une cousine double germaine. C'est-à-dire que les deux frères ont épousé deux sœurs. Donc nous sommes absolument consanguins. Hein. Et ça, c'était un accord. Si jamais il arrivait quelque chose à l'une, que c'était l'autre qui s'occuperait de l'enfant.
Ouais. Hein.
Et donc, la première carte a été envoyée à sa sœur, et la deuxième à ma grand-mère. Voilà. C'est comme ça que... Mais ce sont des cartes qui partaient de Drancy, paraît-il. C'est
ouais.
ça. Elles avaient droit... Enfin, tous les déportés, oui, avaient droit à deux cartes.
Mm-hmm. Hein,
dans leur grande mansuétude.
Oui, ben oui, voyons. Ouais. Alors, on ne va pas raconter tout, parce que je veux que les gens lisent votre ouvrage, 16 juillet 1942. Et ce qui est remarquable aussi, et on va en arriver à votre témoignage au procès Papon, c'est qu'il y a dans votre livre énormément de documents de l'époque, des photos de votre famille et aussi eh bien, des documents administratifs de l'État français, des décrets. Comment est-ce que vous avez retrouvé tout ça ?
C'est 7 ans de recherche.
7 ans de recherche.
7 ans de recherche aux
dans
archives
départementales.
Oui,
ouais.
Mais absolument, aux archives départementales du Haut-Rhin, aux archives départementales de la Corrèze, des Landes. Et vous savez, pour ça, j'ai eu une dérogation et une dérogation spéciale aux archives nationales également, etc., etc. Alors, quand on fouille, c'est fou ce que l'on peut trouver. Hein. Il y a des documents qui sont absolument passionnants,
hein.
Révoltants. Hein. Et heureusement, si vous voulez, que je me suis placé en tant qu'historien, parce que souvent on me pose la question, est-ce que ça
comment
ne m'a pas détruit moralement ? Et vous savez, quand vous êtes dans ce genre de recherche, vous avez la position de l'historien.
Mm-hmm. Hein. Et à ce moment-là... Vous avez mis de côté le fait d'être un
fils
de victime.
C'est ça. Donc, c'est après... Très curieusement, je vais vous confier un secret. Mm-hmm. C'est en lisant le livre que j'ai recommencé... en lisant mon propre livre, que j'ai recommencé à me retrouver dans l'émotionnel.
Non, mais je comprends. Je comprends tout à fait. Alors, 1997, c'est la comparution de Maurice Papon devant la cour d'assises de Gironde pour complicité de crimes contre l'humanité. Vous, au début, vous n'étiez pas contacté pour ce procès. Et puis, vous voyez au journal de PPDA, vous l'entendez parler du camp de concentration de Mérignac. Et là, vous vous rappelez que votre mère a transité par Mérignac. Alors, vous contactez la famille Klarsfeld.
Absolument,
Serge et Arnaud.
Arnaud, je ne savais pas. Mais en tout cas, je téléphone à Serge Klarsfeld et c'est Arnaud qui me répond. Très, très gentiment, d'ailleurs. Et je dois dire que... Très paternellement, presque, dirais-je. Hein, lui qui est tout jeune et moi qui ai 3 fois son âge. Hein, peut-être pas trois
peut-être
fois,
pas,
quand même, faut pas exagérer.
Il a grandi, Arnaud, depuis.
et qui m'a envoyé par fax des documents que je ne connaissais pas. Mmh. Et alors, c'est là où il me pose la question, avez-vous des documents ? Mmh. Alors, des documents, moi, je n'en avais aucun. Bien. Mais je me posais la question...
Ouais.
À ma tante, hein, qui me dit, ah ben voilà, j'ai des documents. Et alors, elle me donne 3 documents. Mm-hmm. Hein, il n'y en avait pas 4, il y en avait 3. Non, toutes mes excuses. Hein. Il y avait la lettre de ma mère.
Oui.
Il y avait la lettre que le père Cougouille
avait écrit
lui-même au verso de la lettre que moi, j'avais écrite.
Mm-hmm.
Hein, et ces deux cartes postales. Voilà. Alors, je dois dire qu'il s'est passé quelque chose de très très curieux quand je lisais la lettre qui a été écrite par moi-même le 17 juillet 1942 à ma tante, lettre qui avait été écrite au crayon, alors avec bien sûr une écriture tout à fait incertaine, comment des petites fautes, des grosses fautes d'orthographe.
J'avais 10 ans.
Bon. Oui, j'avais 10 ans, oui. Et bon, vous savez, j'ai pratiquement pas été à l'école. Hein,
oui,
donc.
Forcément.
Et je dois dire qu'en lisant cette lettre, j'étais obligé de prendre mes lunettes, bien évidemment, mais aussi une loupe, parce que c'était très difficile sur ce qu'écrivait ce petit garçon de l'époque. Vous voyez, c'était quelque chose d'extrêmement... Voilà.
Alors, ce qui est incroyable aussi dans votre lettre, et je ne sais plus si c'est le président dans le procès ou si c'est Arnaud Klarsfeld qui l'a fait remarquer, c'est que vous employez, vous qui avez 10 ans, qui avez passé une nuit en cellule avec votre maman et d'autres femmes juives arrêtées, vous employez le mot de camp de concentration.
Oui.
Voilà.
Mm-hmm. Oui, alors ça, c'est une question qui a été posée au procès. Et je ne sais pas d'où ça vient. Hein. Je suppose que par la nuit en prison, je l'ai entendu, ma mère et les dames là parlaient entre elles. Alors je suppose que je l'ai entendu. Hein. Mais d'ailleurs, tout ça, c'est reproduit dans le livre. Hein,
Oui, c'est reproduit dans le livre.
Il y a les documents, absolument.
Oui, les documents y sont, mais c'est vrai que c'est extrêmement important de voir qu'à 10 ans, un enfant, eh bien, pour employer le terme de camp de concentration, alors qu'il y en a d'autres qui disent qu'ils ne savaient pas.
C'est ça.
Vous retranscrivez dans le livre le procès et il faut le lire, évidemment. Mais vous, la première image, quand vous arrivez à ce procès, émotionnellement, évidemment, c'est très dur. Vous remerciez, vous avez raison de le faire pendant tout le livre, la famille Klarsfeld, Serge et Arnaud Klarsfeld, qui vont beaucoup vous soutenir. Mais quand vous vous retrouvez face à Maurice Papon, qu'est-ce que votre première pensée, c'est quoi?
Ah, alors ça, c'est très... Vous savez, d'abord, il faut quand même que vous sachiez une chose. Ça, c'est très, très important, parce qu'on m'a souvent posé la question. Je n'ai aucune haine, je n'ai aucune rancœur. Mmh. Et le pourquoi de la chose est bien écrite aussi dans le livre.
Oui. Hein.
Ça remonte à l'époque de mon service militaire en Allemagne, en tant que gardien des prisonniers allemands.
Hein. Presque,
je l'explique pourquoi. Donc, si vous voulez, c'est très bien parce que ça permet de témoigner sereinement, parce que la justice, elle, doit passer sereinement.
Ouais.
Hein, donc, non, je n'ai absolument aucune haine. Simplement, je me trouve face avec cet homme qui, dont je dis, la main droite a signé l'arrêt de mort de ma mère.
Mmh.
J'avoue que je ne l'ai pas regardé avec une grande mansuétude.
Mmh.
Cela étant, il y a eu un incident qui a été extrêmement important pour moi dans ce procès. C'est que, une fois que j'ai eu terminé mon témoignage, le président Castagnette se retourne vers Maurice Papon et lui dit « Maurice Papon, vous avez entendu le témoignage de M. Gellmann, avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ?»
Mmh.
Et c'est là que j'entends Maurice Papon dire « Mais écoutez, tout d'abord, je dois te féliciter le témoin pour la dignité et la précision ou la concision, je ne me rappelle plus exactement de son témoignage.
Mmh. »
Et alors quand je l'ai entendu me donner des félicitations et des bons points, là je me suis vraiment mis en colère intérieurement.
Mmh.
Et ça ne m'a pas lâché de tout le procès, vous savez, ça a été
une petite
tête derrière, ouais. Et quand ça a été terminé, le président Castagnette m'a dit de retourner à ma place, mais là j'étais obligé, j'ai dit, Monsieur le Président, si vous permettez, je voudrais récuser avec la plus grande force ou quelque chose comme ça, les félicitations que Maurice Papon m'a décernées. Hein, ces félicitations, je n'en ai rien à faire. Alors là, la salle est partie en applaudissements, et ça m'a valu sur 6 colonnes le lendemain dans le journal Sud-Ouest, une grande manchette, le témoin rembarre l'accusé. Mais je vous avoue que ça m'a soulagé quand même.
Ben écoutez, c'était le minimum. Aujourd'hui, justement, on en parle en antenne, le fait que Maurice Papon ait été libéré, soit libre aujourd'hui, vous estimez que... Qu'est-ce que vous estimez là-dessus ?
Oh, écoutez, la justice française est passée. Personnellement, je n'ai aucun commentaire à faire à ce sujet-là.
Bon, on comprend. Georges Gellmann, cet ouvrage, aujourd'hui, vous m'avez dit au début pourquoi vous avez voulu l'écrire. Vous avez des enfants, des petits-enfants.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Vous en dites un mot un petit peu dans le livre, mais...
Eh bien, écoutez, je pense qu'ils sont sur leur réserve. Vous savez, il y a un livre extraordinaire de Marianne Rubinstein, dont le titre est « Tout le monde n'a pas la chance de
naître orphelin,
de naître orphelin ou quelque chose
oui,
comme
oui.
ça
oui. ».
Et bon, bah écoutez, je pense qu'ils sont sur la réserve. Ça ne doit pas être une position facile pour eux. Par contre, mon petit-fils, lui, m'a dit une fois, alors que le livre n'était pas encore terminé, m'a dit « Papy, quand est-ce que tu termines le livre dans lequel tu racontes comment ta maman est morte ?»
Ouais. Hein,
alors ça, c'était la réflexion d'un petit garçon de 7 ans.
Ouais.
Hein. Bon, voilà, je ne peux pas en dire plus.
Alors, on va...
Je pense qu'il leur faut le temps quand même de la digestion. Hein.
Bien sûr.
Moi, il m'a fallu 60 ans. Alors
oui, donc je renvoie nos auditeurs à notre émission de jeudi, puisque jeudi, évidemment, Yom HaShoah, nous consacrerons l'essentiel de notre matinée à cela. Ils ont des témoignages d'anciens déportés avec leurs enfants et leurs petits-enfants, justement, pour comprendre la transmission de la mémoire. Et la transmission de la mémoire, Georges Gellmann, elle se fait à travers votre livre, évidemment, mais aussi à travers un site internet que je voudrais signaler, parce que ce sont vos 7 années de recherche qu'on peut trouver, que vous avez mis à la disposition du public, sur un site qui porte votre nom, gellmann.com.
Oui, gheldman.com
gheldman.com, les 3W devant, www.gellmann.com, et vous avez mis dessus tous les documents.
Absolument,
que vous avez trouvés.
Absolument, les documents, des photos, etc. C'est un site qui n'est pas encore terminé,
mm-hmm.
mais
il y a déjà beaucoup de choses.
Qui est très très consulté par des historiens du monde entier.
mais il ne faut pas hésiter à aller le voir et puis surtout à se procurer ce livre. Georges Gelman, 16 juillet 1942, Berg International éditeur. On peut le trouver un petit peu partout.
Bah écoutez, oui, en tout cas à la FNAC, je pense dans tous les magasins, dans toutes les librairies.
Dans toutes,
pardon,
les bonnes librairies.
Toutes les bonnes librairies, absolument. Rue des Rosiers ou autre, je ne sais pas, mais j'imagine. De toute manière, on peut le commander. Hein.
On peut le commander aussi
Et même sur mon site, on peut le commander directement, par Internet.
Par Internet. 16 juillet 1942, édition Berg International éditeur. Merci beaucoup, Georges Gelman.
C'est moi qui vous remercie et au revoir à tous nos auditrices et nos auditeurs.
Merci.